chers écouteurs.
Tchoukine, le collectionneur sourcier.
Vladimir Poutine a tranché. Il ne viendra pas à Paris comme prévu.
La nouvelle de l'annulation de ce voyage n'aura pas eu un écho très important en Russie. Le Kremlin n'y tient pas. Et lorsqu'il en est question, l'entourage de Vladimir Poutine insiste beaucoup sur la responsabilité de la France. Le président voulait venir à Paris pour inaugurer le centre culturel et spirituel orthodoxe russe, ajoutant « la visite aura lieu lorsqu'elle conviendra mieux au président français ».
À Paris, Poutine ne devait pas seulement inaugurer au cœur de la capitale, en bord de Seine, le centre culturel et spirituel financé par l'État russe, autrement dit, pour parler clair, la cathédrale de la Sainte Trinité, désormais tête de pont en France, du patriarcat de Moscou. On attendait aussi Poutine au Bois de Boulogne, à la Fondation Vuitton, pour l'ouverture de l'exposition Tchoukine. Au début du XXe siècle, pendant que Diaghilev étonnait Paris avec sa compagnie de ballet, le riche Tchoukine, qui aurait pu être un oligarque ordinaire, visitait en effet avec passion les galeries et les ateliers de la capitale. Frappé de nombre de malheurs privés qui ressemblaient à une malédiction, l'homme aurait pu avoir la tentation du désert, mais c'était un inventeur au sens propre du mot. Précédé de sa baguette de sourcier, il repérait les peintres qui s'engageaient le plus avant, en achetant leurs toiles en grand nombre, en leur passant parfois les commandes, en les installant toujours au plus près de lui, dans son palais de Moscou, au risque d'avoir des difficultés à vivre en leur compagnie. Ainsi, élit-il, Gauguin, Matisse, Picasso, Matisse d'ailleurs qui a dit qu'aucun collectionneur ne l'avait poussé à ce point dans ses retranchements. La prise du pouvoir par les bolcheviks poussa Tchoukine à partir sans bagages. Sa collection fut réunie en 1918 avec celle de son symétrique Morozov dans un musée d'art contemporain, lequel faillit disparaître pendant le règne de Staline. En 1948, le génial petit père des peuples ordonna en effet la fermeture de cet établissement inutile qui témoignait d'un esprit bourgeois et réactionnaire. Dispersé entre l'Ermitage et le musée Pouchkine, les toiles mirent du temps à réapparaître. Mais ce que Staline avait séparé, Bernard Arnault le rassemble. 158 des 274 œuvres de la collection sont de nouveau réunies. Mais attention, pour quelques mois seulement, la Fondation Vuitton ne peut pas encore tout.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marc-André, je prends mon élan, Delocq Fourcault, Tchoukine, faudrait-il ajouter. Je vais vous appeler parce qu'on n'a pas tant de temps, AMDFC peut-être. Vous êtes le petit-fils issu du deuxième mariage de Tchoukine et vous habitez la France où votre mère Irina est morte en 1994. C'est un peu votre rêve, avant la grande opération Arnault, que de provoquer la réunion des tableaux dispersés.
Bien sûr, une collection c'est une logique, c'est une œuvre. C'est d'ailleurs bien ce qu'on va essayer de vous montrer à partir de samedi. C'est sous le regard de Tchoukine, les œuvres qu'il a choisies, et également les peintres les uns par rapport aux autres. Un collectionneur, contrairement à un directeur de musée, il organise un dialogue entre des œuvres. Il organise sa vision de l'art personnel.
Juste un mot sur la situation familiale, et puis on va en venir au récit de la biographie de votre grand-père. Quand de temps en temps, on a exposé quelques-unes des toiles en France. Il y a eu une exposition à Lille des Matisse du Maroc il y a une génération, puis une exposition de plusieurs Matisse au centre Georges Pompidou en 1993. Votre mère, qui vivait encore en 1993, disait « Moi, je demande la saisie du catalogue, je fais valoir mes droits. » Un accord a été trouvé depuis ?
Non, mais nous avons, moi j'ai estimé, en tout cas, vous savez, elle c'est elle, moi c'est moi, je défends la mémoire de mon grand-père comme elle. Bien sûr, il y a un débat juridique, mais je pense que alors que 100 ans après, la mémoire de Tchoukine revient exactement 100 ans. Il y a exactement 100 ans, en 1916, le portrait de Tchoukine par Christian Krohn, dernier tableau de la collection, entrait dans la collection de Tchoukine. Donc, si on peut dire, Star is born, mais à un siècle. Alors, je ne vais pas dire, on va pas parler chèque, si vous voulez. Je crois qu'il faut vraiment accueillir cette extraordinaire expérience, se faire découvrir le fait que l'art moderne, la notion de musée d'art moderne a été inventée, en Russie par Sergueï Ivanovitch Chouchkine, et que effectivement Bernard Arnault, qui est une sorte de Chouchkine moderne, hein, Chouchkine était un industriel du luxe, comme Bernard Arnault. Bernard Arnault, bon, il n'a pas de collection comme celle de Chouchkine, mais enfin, il collectionne les bâtiments de Franck Gehry et les collections Chouchkine. C'est pas mal non plus, hein, comme
oui,
collection.
Mais
donc voilà, il y a ce pont qui est important.
Dites-moi, il y a quand même une différence. Au départ, cependant, la collection de votre grand-père, c'était une collection chic qu'il avait faite aussi, peut-être sur les indications de ses trois autres frères qui étaient collectionneurs. Enfin, une collection chic, sauf qu'il concentrait quand même l'effort sur quelques-uns, dès le départ, dès les débuts.
Oui, c'est-à-dire que la première phase, il faut collectionner. Quand vous êtes patron d'une très grande entreprise textile, que vous êtes entouré de collectionneurs parce que vous êtes à une époque de relève du pouvoir de la noblesse par la bourgeoisie, et l'un des insignes du pouvoir, comme le faisait la noblesse, c'était bien sûr les œuvres. Donc c'était un peu un passage obligé. Il a un palais, il a une très jolie femme, très élégante, il va faire des réceptions, on fait évidemment un peu de business à cette occasion.
Sa femme, c'est les mines du Donbass aussi.
Absolument. Comme je dis, c'est une fleur épanouie dans le charbon et particulièrement réussie. Donc, la collection fait partie. Dans un palais, il faut mettre les murs. Alors évidemment, elle est déjà très réussie. Vous avez raison, il a trois frères collectionneurs. Ce sont tous des gens du textile. Alors, ils n'ont pas fait les beaux-arts, mais ils ont appris à voir l'œil. C'est leur métier, l'œil. Hein. Dans le parfum, c'est le nez. Dans le vin, c'est le goût, le palais. Dans le textile, c'est l'œil.
Hein. Bon, alors comment d'une collection chic, on va faire peu à peu un musée d'art contemporain, les choix de votre grand-père sont audacieux. Il va monter les marches l'une après l'autre, puisque vous parliez de femmes fleurs. Disons un mot de Gauguin, il y aura 16 tableaux de Gauguin dans la collection. Il y en a 11 à l'exposition de la Fondation Vuitton. On entend ici, dans ce son qu'on a un peu reconstitué pour être conforme aux légendaires, Degas s'entretenir avec Gauguin avant qu'il n'aille chez les femmes fleurs. Et ensuite, on entendra un intermédiaire important pour Chouchkine.
Je suis très content de cette acquisition.
Je vous remercie, monsieur Degas.
C'est un modeste tribut à l'admiration que je vous porte.
Le public ne semble pas vous approuver.
Pas seulement le public. Mais ne désespérez pas, surtout. Allez jusqu'au bout.
Voilà. Monsieur Degas, que me vaut votre visite dans ma modeste galerie ?
Oh ! Vous avez ici un Gauguin. Pauvre Gauguin, sur son île, là-bas. Il doit penser tout le temps à la rue Lafitte.
Je lui ai proposé un contrat.
Vous êtes un malin Volard.
Un jour, deux visiteurs sont entrés dans ma galerie. Se souvient Ambroise Volard, marchand d'art. Ils se parlaient dans une langue étrangère. L'un d'eux, après m'avoir acheté un Gauguin, s'en alla. J'ai demandé à son compatriote, qui était resté pour regarder des tableaux, quelle était la langue qu'il parlait. C'est du russe.
Dites-moi, pour le passage, André Marc, de Le Courcot, de la collection chic à la Bernard Arnault, au musée d'art contemporain, il ne suffit pas de la concentration sur des artistes élus, un choix audacieux que celui de Gauguin. Il y a peut-être une réflexion qui vient des malheurs de sa vie privée. Enfin, on peut même parler de malédiction sur votre famille. Enfin, ça, c'est le premier mariage, pas celui dont vous êtes issu, de Chouchkine.
Oui, c'est l'histoire assez shakespearienne d'un homme à qui tout réussit, qui en fait, justement, n'a pas l'expérience du malheur, elle n'a pas appris à être malheureux, et qui va subir, en 4 ans, les souffrances familiales les plus abominables que l'on peut souffrir, puisque lors de la révolution de 1905, son fils va disparaître, on ne sait même pas dans quelles conditions. Il est mort, mais en tout cas on le retrouve noyé dans la Moscova en 1906.
C'est-à-dire qu'il faut que la Moscova dégèle pour qu'on retrouve le corps.
Au dégèle, oui.
Donc des mois d'attente.
Voilà, et sans savoir. Donc il y a vraiment la double peine. Sa femme, la très jolie fille du pays minier du Donbass n'y arrive pas. Au bout de 6 mois, elle va être emportée par une maladie très, très rapide au mois de janvier. Il ne sait pas, mais son deuxième fils, il a 4 enfants, son deuxième fils va également se suicider 3 ans plus tard parce qu'il ne supportera pas, lui, l'absence de sa mère. Et au cœur de ces tragédies, Chouchkine décide passe un homme d'affaires, un homme qui est un actif. Et comme il ne sait pas souffrir, il agit pour écarter la souffrance. Et il décide de léguer sa collection à la galerie Tretiakov, qui est le grand musée de Moscou, pour en faire une section d'art moderne. Et il invente, quasiment dans la nuit de la mort de sa femme, l'idée d'un musée d'art moderne. Nous disons d'art moderne, à l'époque il faudrait dire art contemporain, bien sûr, les tableaux ont maintenant 100 ans. Et Gauguin est le premier des grandes passions, déjà dans la période art moderne. Même si, grâce à Vollard, que vous avez cité, il a acheté un ou deux Gauguin, il va le faire de manière tout à fait systématique. C'est pas un hasard. Gauguin est un fabricant de paradis. Et Chouquine, eh bien, il traverse l'enfer.
Mais avec Gauguin, il n'a pas le commerce proche qu'il a avec le deuxième homme auquel il s'attache par priorité, qui est Matisse. Découverte de Matisse à partir de 1905, il l'achète, il lui arrive de refuser, enfin, il commande, et notamment en 1909, la fameuse danse qui va orner l'escalier de son palais Troubetskoy, la danse qui n'est pas là, évidemment, pour des raisons de sécurité, à la Fondation Vuitton, mais à la Fondation Vuitton, il y a 23 des Matisse sur les 37 de la collection.
J'aime beaucoup la danse. Je trouve que la danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. Si bien que quand j'ai eu à faire une danse pour Moscou, j'ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche après-midi et j'ai regardé danser. J'ai regardé notamment la farandole, souvent. Alors, rentré chez moi, j'ai composé ma danse en chantant le même air.
Moscou, 16 mars 1909. Cher monsieur Matisse, j'ai reçu les esquisses des grands tableaux. Ils sont très nobles de couleurs et de lignes. Mais hélas, je ne peux pas mettre le nu sur mon escalier. Après la mort d'un de leurs parents, j'ai recueilli à la maison des jeunes filles et chez nous, en Russie, nous sommes un peu en Orient. On ne peut pas montrer de nu devant des jeunes filles.
Chouquine est tiraillé. Après 2 semaines de réflexion et d'hésitation, la passion l'emporte. Il écrit à Matisse.
Cher monsieur, je trouve votre panneau la danse d'une telle noblesse que j'ai pris la résolution de braver notre opinion bourgeoise et de mettre sur mon escalier un sujet avec le nu.
Un extrait du documentaire d'Arte qui passera dimanche en 8 à 17h25, le roman d'un collectionneur Matisse qui dit qu'il n'a jamais eu quelqu'un d'aussi attentif parmi ses acheteurs.
Mais c'était le, si j'ose dire, le fabricant de paradis disponible, puisque malheureusement Gauguin avait quitté la communauté en 1903. Et effectivement, il a trouvé en Matisse non seulement cette peinture très riche, très colorée, dont il avait besoin. C'était un homme qui en fait fuyait le noir et blanc vers la couleur. Il a trouvé un complice, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a vraiment compris. Qui se rebellait, hein, il voulait pas de nu, il lui en a fait. Il voulait une harmonie en bleu, il lui a fait une harmonie en rouge, qu'on viendra, qui est à la Fondation. Et finalement, Chouquine, cet artiste qui est un petit peu en révolte, mais qui néanmoins était manifestement passionné par le regard que Chouquine portait sur lui, il y a eu cette collaboration tout à fait exemplaire de 38 œuvres, dont la danse et la musique, parce que c'est un diptyque.
La musique. J'y viens, Marc-André de Locfourcault. On ne peut pas ne pas évoquer en contre-champ de l'aventure de Chouquine à Paris, celle de Diaghilev, son exact contemporain, qui a amené à Paris une exposition d'art russe, qui a amené à Paris des concerts de musique russe à partir de 1907. Alors, vous dites que pour Diaghilev, Scriabin a la même importance que Scriabin avait pour votre grand-père, mais Diaghilev, c'est aussi un élève de Rimsky-Korsakov en 1910 et donné avec les ballets russes. Scheherazade.
Thank you.
l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
À Paris, à la Fondation Vuitton, est présentée la plus grande partie de la collection de Sergueï Tchoukine, mais de son vivant, dans les années d'avant la Révolution, il la présentait déjà à un public plus choisi, au palais Troubetskoï, qu'il faisait visiter le dimanche.
Voici le salon où étaient accrochées les œuvres de Cézanne, de Rhin et d'autres encore. Il y avait aussi des Renoirs, des Puvis de Chavannes, des Degas. Et voici la fameuse salle Picasso, où se trouvaient une cinquantaine d'œuvres de l'artiste. Nulle part ailleurs, on ne trouvait une telle collection de Picasso.
Alors juste avant d'en venir au troisième artiste neuf, Picasso, Marc-André de Locfourcault, Tchoukine, Bernard Arnault, le grand Manitou de la Fondation Vuitton, a trouvé que l'idée de la commissaire Anne Baldassari de commencer l'exposition par des photos du palais Troubetskoï, c'était, je le cite, un peu déceptif. Ça veut dire que c'était un peu vieillot chez votre grand-père ?
Écoutez, ça, moi je suis pas conservateur et je laisse les commissaires et les grands mécènes décider entre eux. Voilà de nouveau un dialogue, hein, comme le dialogue entre Matisse et mon grand-père. Et n'oubliez pas que parlons plutôt du salon de mon grand-père où étaient accrochés les Matisse, et où ils ont fait ça, un peu comme Bernard Arnault et Anne Baldassari, ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment un acte de décoration, et toute cette idée, et toute l'idée de l'exposition. Hein. Le palais, il était du 18e, les tableaux de 1900. Oui. Donc en fait, vous aviez...
Et tableaux, le mobilier du faux Louis XV.
Le mobilier, c'était... Non, c'était... Non,
du
non,
vrai Louis XV.
C'était pas le genre. Non, non, c'était du vrai Louis XV, ça, ils savaient faire, ils avaient de l'argent. Mais c'était évidemment un dialogue, donc l'environnement passé, les œuvres futures. Là, c'est le contraire. Nous avons un palais contemporain de Bernard Arnault et Franck Guéry, avec un dialogue, avec des toiles qui sont devenues modernes, et ne sont plus contemporaines. On a fait le dialogue inverse, et je pense que c'est assez passionnant.
Bah, vous
c'est
êtes ça, un homme de synthèse en même temps qu'un homme de dialogue. Alors, on va en venir à Picasso. Découverte du nouveau Picasso, pas du Picasso de facture encore classique dans la collection de Stein, 1908. Et il va faire le choix, lui, d'acheter plutôt les œuvres les plus récentes et un rythme de plus en plus soutenu. Encore une fois, extrait du même documentaire d'Arte, dimanche 30 octobre à 17h25, la lecture d'une lettre de votre grand-père relative à la femme à l'éventail. Nous sommes en 1909.
Quand j'ai apporté le tableau à Moscou, je ne l'ai pas accroché tout de suite. Je comprenais que je ne pouvais pas le mettre à côté d'autres œuvres. La toile était en opposition avec tout ce que j'avais, en dissonance avec toute ma collection. Finalement, je l'ai accroché dans un couloir mal éclairé où je n'avais pas d'autres tableaux. Tous les jours, j'empruntais ce couloir pour aller à la salle à manger. Chaque fois, en passant à côté du tableau, je jetais un coup d'œil dans sa direction. J'ai pris l'habitude de le regarder en passant. Un mois s'est écoulé. Je me suis rendu compte que si je ne regardais pas le tableau, je me sentais mal à l'aise au déjeuner. Je l'ai regardé plus longtemps. J'avais l'impression de manger du verre pilé, mais je le regardais de plus en plus. Un jour, je me suis rendu compte, non sans effroi, que ce tableau avait une force intérieure incroyable. J'ai été horrifié. Tous les autres tableaux de ma collection m'ont alors paru sans force, et ce qui était le plus inquiétant, je ne voulais plus les voir. Je sentais que je ne pouvais plus vivre sans Picasso.
Autant pour moi, Marc-André Lefourcault, vous me précisez que ce n'est pas une lettre, c'est une interview, mais vous n'avez qu'à publier plus rapidement le livre qu'on attend là pour le début de l'année prochaine consacré à votre grand-père. Ce qui est intéressant dans les propos qu'il tient là, c'est l'idée de l'acclimatation difficile, il faut apprendre à aimer.
Oui, tout à fait. Mais Picasso, c'était un choc pour lui, et je m'en veux un peu à mon grand-père, pour tout vous dire. Parce que il va voir Matisse, qui était très généreux, l'emmène voir Picasso en novembre 1908. Donc en fait, il avait vraiment toutes ses chances. Et qu'est-ce qu'il voit en 1908? Eh ben, il voit, et c'était pour ça que Matisse l'avait emmené, c'était le seul moyen de le voir. Il voit le Demoiselle d'Avignon, qui est donc la grande annonce du cubisme. Et on se dit, il avait le courage, il était le seul à avoir le courage et l'argent, et il était devant le tableau. Et il ne le prend pas. Voilà. Mon grand-père, c'est l'homme qui n'a pas acheté les Demoiselles d'Avignon. Alors, effectivement, il s'est puissamment rattrapé, mais le tableau lui a fait extrêmement peur, l'a profondément impressionné, notamment évidemment sa partie droite, qui est un peu moins gaie que sa partie gauche, et puis on connaît le sujet, et qui était compliqué pour Moscou, donc il accepte les nus de Matisse, mais pas les Demoiselles. Et en même temps, il y a une espèce de refoulé qui s'accumule. Il achète ce premier tableau dont il parle, la femme à l'éventail, très bon marché, c'est un marchand un peu brocanteur, Clovis Sago, enfin pas un galeriste de deuxième niveau, et il craque, et il va en 3 ans, essentiellement là chez le grand galeriste Canveller, en 3 ans, il va acheter 50 Picasso, ce sera donc le peintre le plus représenté dans la collection Chouquine, avec son fameux cabinet Picasso, qui est un peu la conclusion de ce musée d'art moderne.
Mais vous ne lui en voulez pas d'avoir épousé, je me lance, hein, Nadejda Afanassievna Mirotvorseva.
Certainement pas.
C'est votre grand-mère.
Ça me rapproche un peu de Bernard Arnault, puisque c'était une pianiste de concert. Une pianiste de concert comme Madame Arnault. Il aimait beaucoup la musique, vous le savez. Après tout ça, après tous ces malheurs, c'est un peu comme une rédemption, le fait qu'il ait rencontré cette musicienne qui était très apaisante, qui était le contraire de Lydia Koraneva, la première épouse, et qui a surtout, comme vous dites, je vais être mal placé pour lui en vouloir, puisqu'elle est ma grand-mère, et que de manière étonnante, personne ne s'y attendait. En 1915, alors qu'il a 60 ans et Madame Nadejda Mirotvorseva a 43 ans, eh bien, ils vont donner naissance à une petite fille, un dernier enfant, qui, après tous ses malheurs, est un petit peu comme le pardon pour Chouquine.
Oui, mais la guerre éclate, les liens sont de plus en plus difficiles avec la France. Première révolution, et puis le coup de force bolchevique, et puis le départ en exil, sans bagage, sans aucun bagage, en 1918. À Nice, où il va se retrouver avant de s'installer à Paris, où il a loué une grande maison, Matisse essaiera vainement de renouer avec lui. Le destin de Chouquine est séparé maintenant de celui de sa collection. Et voici ce qu'il advient de celle-ci pendant qu'il est en exil.
Selon Marx et Lénine, le socialisme triomphera grâce à une production abondante de biens matériels et culturels pour le peuple. Cette production sera possible grâce à un rendement encore jamais vu dans l'histoire. Ainsi, le peuple pourra être riche et cultivé.
Octobre 1918. Soviet des députés de Moscou. Le département des musées du commissariat de l'éducation vous informe que la galerie de Chouquine est dorénavant un musée national. Signé, directeur du département, Natalia Trotsky, femme de Léon Trotsky.
Laquelle qui était un peu Madame Musée, comme il y a une directrice des musées de France. Elle nomme alors la fille cadette, votre tante qui est restée en Russie, comme directrice du nouveau musée qui réunit la collection Chouquine et la collection Morozov. Mais votre tante ne va pas rester longtemps en poste.
Alors, il y a une grande ambiguïté au début de la Révolution. Parce que les Chouquines sont des capitalistes, ils n'ont pas tout à fait le profil. Mais en même temps, ils sont les pères de l'avant-garde. Les peintres russes ont appris la peinture dans le musée Chouquine, les Malevitch, on va le montrer d'ailleurs, hein, vous le verrez à la Fondation Vuitton, puisqu'il y a une section consacrée à cette influence formidable que Chouquine a eue sur l'avant-garde. Or, ces peintres d'avant-garde sont extrêmement bien vus. Ce qui fait que d'un côté, l'aspect capitaliste, c'est moyen, de l'autre, l'invention de l'art moderne, c'est formidable. Et surfant sur ce nom, sur ce prestige, et dans un milieu qui reste encore un peu intellectuel quand même, hein, les débuts de la Révolution, eh bien, tout naturellement, Madame de Keller, l'épouse d'un comte, ci-devant aristocrate,
la fille très érudite,
eh bien, ils vont être les créateurs des premières années du musée. Ils ont eu quand même l'intelligence de dire que ça commence peut-être à devenir un peu difficile. Ils avaient la chance d'avoir des origines baltes, les pays de Baltes étaient devenus indépendants, donc ils ont profité du passeport balte du comte de Keller pour partir en 1922. Mission accomplie, hein, la collection était sauvée.
Oui, elle était sauvée, mais voilà, l'ombre de Staline ensuite avance, et Staline ne va pas nécessairement vers la même position, après que la collection a été évacuée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas question, finalement, de la reconstituer telle qu'elle, et en 1948, Staline choisit de la disperser. Aurait-il pu la détruire ? Il la divise entre deux musées qui ne montrent pas les œuvres, d'ailleurs, pendant quelques lustres.
Alors, il y avait un débat. Évidemment, au fur et à mesure que la vraie peinture s'est devenue la peinture réaliste socialiste, et les peintres devaient montrer les acquis de la Révolution, il y avait eu un courant très très fort contre l'avant-garde, qui était un courant politique, et c'est ce courant qui n'a pas réussi à faire fermer le musée tant qu'il était ouvert. Le décret de Lénine le protégeait quand même, disant que c'était une collection formidable. Et après la guerre, comme il avait été évacué pour tous les musées, par des risques d'occupation par les nazis, le courant anti-avant-garde a réussi à le faire fermer. Je ne suis pas sûr que Staline se soit personnellement particulièrement passionné pour le sujet, mais il y avait une vieille garde totalement réaliste socialiste menée par Vorochilov, par le maréchal Vorochilov et par le peintre Garasimov, qui d'ailleurs a peint Staline et Vorochilov se promenant sur les murs du Kremlin, et ils ont donc dissous le musée. Le peintre s'est installé personnellement dans l'ancien bureau de Morozov, puisque le musée était dans la maison Morozov, et les œuvres ont été heureusement sauvées par les conservateurs de l'Ermitage et du Pushkin qui se les ont réparties.
Et c'est ainsi qu'on peut en voir la majorité à l'exposition de la Fondation Vuitton. Je me demande si on ne va pas vous retrouver sur France Inter très prochainement. On le saura dans un instant. Je salue d'abord Ilinka Negulesco, Mehdi Fatah, Valérie Estaraï, l'équipe de la Marche de l'Histoire. Je salue aussi Mathieu Vidard. Quel est le sujet ?
La fin du couple, c'est pas très joyeux, mais c'est notre thème aujourd'hui.
Avec Marcela Yacoub,
ce sera joyeux.
C'est toujours un peu paradoxal. Merci
à vous.
Bruno. Dans quelques instants.